Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a écrit une œuvre qui a marqué à jamais l'histoire de la littérature et nos années de lycée également. Mais derrière l'écrivain se cache aussi un photographe. Alors qu'on commémore aujourd'hui les 120 ans de sa disparition, je vous raconte celui qui a eu le déclic de la photo dans les dernières années de sa vie, Émile Zola. Oui, il y a des passions qui se fixent très tôt dans son existence et d'autres que l'on découvre sur le tard. L'histoire d'amour entre Émile Zola et la photographie relève de la deuxième catégorie. En 1894, lorsqu'il s'offre son premier appareil photo, Zola a 54 ans et partage alors sa vie entre trois lieux. À Paris, il loge dans son appartement de la rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement. Dans les Yvelines, il rejoint souvent Médan et la maison blottie entre les méandres de la Seine où règne son épouse, Alexandrine, sorte de façade bourgeoise d'une existence d'homme installé. Et puis, à 20 minutes à bicyclette de la demeure de Médan, il y a le 5 de la rue de Bazincourt à Verneuil, là où Zola a acheté une maison pour y loger sa maîtresse, Jeanne Rosereau, l'ancienne lingère de son épouse. Ce troisième lieu, c'est celui de sa vie cachée. Le discret repère des amours illégitimes de l'écrivain, le refuge où il se rend régulièrement pour passer un moment avec la mère de Denise et de Jacques, les enfants nés de cette union de la main gauche. Et dans ces trois lieux, Zola n'est pas tout à fait le même. À Paris, il est l'auteur célèbre, le chef de file du courant naturaliste, l'intellectuel engagé qui ferraille jour après jour pour défendre ses convictions. À Médan, il est le mari qui, avec son épouse, accueille régulièrement son petit cercle d'amis. À Verneuil, enfin, il est l'amant de celle qu'il a conquise en 1888 et avec qui il découvre les joies d'une paternité qui n'est jamais venue dans son couple légitime. Paris, Médan, Verneuil, dans ces trois hauts lieux de la vie de Zola, une chose semble être, elle, immuable, la photographie. Une passion, une obsession même, qui occupe une place centrale dans la vie de Zola, centrale par le temps qu'il consacre d'abord, mais aussi par l'argent qu'il y dépense. À une époque où la photographie commence tout juste à passer des plaques de verre à la pellicule et où le plus petit des appareils photo pèse son poids, chaque tirage est une aventure. Le cliché lui-même n'est rien. Il faut ensuite s'enfoncer dans un laboratoire obscur où la chimie est reine pour n'en ressortir qu'après des heures en sentant l'acide et les sels d'argent. En cette fin de 19e siècle, la photographie est, vous l'avez compris, un loisir qui coûte cher et qui prend du temps. Un passe-temps d'homme aisé en somme. Et de fait, à compter de 1894, Émile Zola a davantage de temps libre qu'au cours des décennies précédentes. L'écriture l'occupe encore beaucoup, mais l'essentiel de son œuvre est déjà publié. Les Rougon-Macquart, ce cycle immense, commencé en 1871 avec La fortune des Rougon, s'est conclu un an auparavant, en 1893, avec le 20e et dernier tome, Le docteur Pascal. En un quart de siècle, Émile Zola a fait naître un ensemble hors du commun, un récit fleuve et ambitieux avec cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, pour reprendre le sous-titre de l'œuvre. Les Rougon-Macquart, c'est le tableau total d'une société tout entière, décrite avec une minutie et une précision que Zola veut presque médicale, je dirais même chirurgicale. En 20 romans, ce fils d'ingénieur italien qui a connu la gêne et n'a été naturalisé français qu'à 22 ans seulement, a pris depuis longtemps sa revanche sur une enfance à la fois libre et triste, entre la mort précoce de son père alors qu'il n'avait que 7 ans et les difficultés financières de sa mère. Il s'est imposé comme le chef du naturalisme, ce courant littéraire qui prétend refléter la réalité d'une société avec une rigueur de scientifique, sans rien cacher de ses luttes, de ses corruptions et de ses angles morts. En 1893, quand il met un point final à ce vaste tableau qui compte des chefs-d'œuvre comme l'Assommoir, Germinal ou La bête humaine, le temps des difficultés financières est depuis longtemps derrière lui. Zola est un auteur célèbre, même s'il n'obtiendra jamais le siège dont il rêvait à l'Académie française, malgré ses 19 candidatures. Si les Rougon-Macquart disent quelque chose de Zola, c'est qu'il n'est pas le genre d'homme à se lancer dans un projet pour l'abandonner en route. Quand l'écrivain se fait photographe, c'est avec la même rigueur et le même sérieux que dans tout ce qu'il a entrepris. En une petite dizaine d'années, Zola prend plus de 3000 clichés. Et si l'auteur du Ventre de Paris a pu compter sur les conseils amicaux de son ami, Félix Tournachon, plus connu sous le nom de Nadar, dont on a déjà parlé ici même dans cette émission, c'est surtout en autodidacte qu'il se forme. Comme Zola ne serait pas Zola sans un goût prononcé pour l'expérience et la minutie, il avance par essai, par erreur, en variant les réglages à la prise de vue d'abord, puis au moment du développement et du tirage. L'heure est aux plaques de verre, mais la pellicule est déjà là, et Zola s'y intéresse, comme il s'intéresse à d'autres techniques, du papier citrate à la cyanotypie, ce procédé qui permet d'obtenir de superbes monochromes d'un bleu profond. Zola tâtonne et consigne ses essais avec soin pour recommencer plus tard jusqu'à obtenir le résultat qu'il souhaite avec l'un des 10 appareils qu'il s'est procuré. Et si la photographie reste un violon d'ingres, un loisir intime qui lui sert aussi de bulle, à une époque où l'écrivain s'engage à nouveau dans le combat public au moment de la très violente affaire Dreyfus, Zola en est convaincu. Ce regard analytique et scrutateur, cet œil d'entomologiste qu'il pose sur le monde comme écrivain, on le retrouve en photographie. Il l'écrit d'ailleurs à un ami. « À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous ne l'avez pas photographié. » Ce qui intéresse Zola dans la photo, pas l'argent en tout cas, jamais l'écrivain ne cherchera à publier ses images. Et pour cause. Pour l'essentiel, ces clichés touchent à l'intime. Il se photographie lui-même. Il s'intéresse aussi à son entourage, dans ses deux foyers. À Médan, son épouse et son cercle amical posent pour lui. À Verneuil, ce sont ses enfants et leur mère qu'il couvre de son objectif dans des portraits touchants de naturel. À une époque où les photographies sont souvent très posées, très mises en scène, Émile Zola ne s'encombre guère de décors. Le fond d'un jardin ou un simple drap jeté sur une tringle lui servent de décor. Parfois pourtant, le naturel revient au galop. Zola saisit le pouls de son époque en multipliant par exemple les clichés de voisins ou d'artisans ou en prenant des images de l'exposition universelle qui s'installe à Paris en 1900, dont certaines sont prises depuis le premier étage de la Tour Eiffel, achevée 11 ans plus tôt. Dans le privé, la photographie est désormais l'autre grande affaire d'Émile Zola, dans la dernière partie d'une vie qui s'arrête brutalement il y a 120 ans jour pour jour, le 29 septembre 1902, lorsqu'une cheminée bouchée l'asphyxie aux côtés de sa femme Alexandrine dans leur appartement parisien. Alexandrine en réchappera, pas lui. Émile Zola est tué dans ce qui est peut-être autre chose qu'un accident tragique. Rien n'est tranché avec une absolue certitude. Mais Zola a peut-être payé de sa vie son dernier grand combat public, cette autre grande affaire de son existence. Le combat en faveur du capitaine Dreyfus, accusé à tort d'avoir trahi l'armée française. C'est le fameux « J'accuse », lancé au président Félix Faure à la une de l'Aurore, le journal de Georges Clemenceau. Et c'est le combat d'un homme qui s'est mis tout entier au service d'une conviction qui conclut cet article célèbre « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Le lendemain de sa mort, la presse antisémite exulte. Les défenseurs de Dreyfus, eux, pleurent un homme engagé. À ses funérailles, Anatole France, un autre grand écrivain, aura ces mots « Envions-le. Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et par un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Et aujourd'hui encore, il reste des écrits pour le prouver et des photos aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.